Radio France Internationale, il est 14h, en temps universel, 16h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour, à la une de ce journal, le Hezbollah se dit prêt à une offensive terrestre d'Israël au Liban, alors que les menaces israéliennes se font de plus en plus précises. Le procès de Marine Le Pen, il a commencé cet après-midi à Paris. La présidente du Rassemblement National est jugée avec 24 autres co-accusés dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Également dans ce journal, la lutte de villageois de Géorgie contre les activités minières qui détruisent leur maison. Et puis les adieux d'Antoine Griezmann, le footballeur français, annonce la fin de sa carrière internationale sous le maillot de l'équipe de France. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez autour de la question « Comment faire écho aux initiatives des jeunes scientifiques africains ?» Trois déclarations ces dernières minutes sur le Liban, 3 jours après la mort de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah tué par une frappe israélienne. D'abord, une déclaration du chef de la diplomatie des États-Unis qui estime que le monde est plus sûr sans lui. Une déclaration aussi de son homologue français, Jean-Noël Barrot, en visite à Beyrouth. Des solutions diplomatiques existent, dit-il. Déclaration que semble démentir de son côté le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui vient de dire qu'il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre. Menace claire à l'égard de l'Iran, soutien du Hezbollah, l'élimination de Hassan Nasrallah, n'est d'ailleurs pour le gouvernement israélien qu'une étape, un gouvernement donc qui n'exclut pas une invasion terrestre du Liban. Écoutez à présent la réponse à distance du numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, qui s'exprimait à la mi-journée pour la première fois depuis la mort de Hassan Nasrallah.
Si les Israéliens veulent franchir la frontière, les forces de résistance sont prêtes pour ça. Nous sommes préparés à ça, nous les attendons, nous ne dépendons que d'Allah. Nous sommes sûrs que l'ennemi israélien n'atteindra jamais ses objectifs. Nous serons victorieux à la fin des fins. Je veux dire à nos familles et à nos chers sympathisants que je sais que le sacrifice est grand. L'ennemi travaille à 2 choses. 1, à attaquer nos militaires et éliminer leurs leaders. 2, à détruire les villes, les villages, et créer des failles dans notre résistance et parmi la population.
Naïm Qassem, le numéro 2 du Hezbollah, traduction de Théo Renaudon. Alors, comment a-t-on réagi à la mort de Hassan Nasrallah dans les territoires palestiniens alors que le numéro 1 du Hezbollah était un défenseur affirmé, affiché de la cause palestinienne? Voici le reportage de notre envoyé spécial en Cisjordanie, Fanny Léonore Crouzet.
Autour de la place Al-Manara, centre névralgique de Ramallah, beaucoup sont frileux à l'idée de parler d'Hassan Nasrallah.
Le gouvernement ici n'aime pas Hassan Nasrallah, donc les gens ont peur de dire ce qu'ils ressentent.
Et lui, il a peur que les Israéliens l'emmènent en prison.
Dana, du haut de ses 22 ans, n'a pas peur de dire sa peine.
Je suis tellement triste parce que Hassan Nasrallah, c'est une figure politique. Il a toujours soutenu la Palestine et le droit des Palestiniens sur leur terre contre Israël. Chaque personne opposée à Israël a raison.
Une large majorité des Palestiniens à Ramallah s'accordent sur cette idée. Hassan Nasrallah était l'un des fers de lance du combat contre l'occupation israélienne.
En général, oui, en général. Les Palestiniens ont de la sympathie pour Hassan Nasrallah.
Mais pour Youssef, la mort du chef du Hezbollah permettra surtout à Israël d'attaquer le sud du Liban par la terre.
Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et même si quelqu'un remplace Nasrallah, ils le tueront aussi et personne ne tiendra à sa place.
Les actualités libanaises défilent sur les téléphones, mais ici on a davantage les yeux tournés vers Gaza, où les frappes israéliennes se poursuivent. Fanny Léonore Crouzet, de retour de Ramallah, RFI.
Retour au Liban avec l'armée libanaise qui annonce la mort d'un de ses soldats dans une frappe de drone israélien dans le sud Liban. Frappe israélienne aussi sur Beyrouth, une frappe qui a tué ce matin deux commandants du FPLP, le Front de Libération de la Palestine. Enfin, on a aussi appris la mort de six secouristes du Hezbollah, toujours tués par une frappe israélienne. Elle fait la une de l'actualité française. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, est jugée depuis cet après-midi avec 24 autres co-accusés dans l'affaire des emplois fictifs du FN au Parlement européen, des assistants parlementaires rémunérés par l'Union européenne alors qu'en fait ils travaillaient pour le parti d'extrême droite à Paris, selon l'accusation. Marine Le Pen, à son arrivée en début d'après-midi au Palais de justice à Paris, a assuré n'avoir violé aucune règle. Et elle a affiché son optimisme.
J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire. Et je ne suis pas mécontente que nous ayons le temps pour les développer, puisque deux mois sont prévus pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle. Aucune règle politique et aucune règle réglementaire, en quelque sorte, du parlementaire.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous retirez un petit peu votre robe d'avocate ?
Un assistant parlementaire n'a pas vu son député pendant plusieurs mois.
Non, mais je ne vais pas faire le procès avec vous, là, dans le couloir.
Il va durer deux mois, on ne va pas le faire.
Donc, vous entendrez tous les arguments que nous avons à développer. Et croyez-moi, ce sont des arguments extrêmement sérieux, extrêmement solides.
Marine Le Pen au micro de Laura Martel, RFI, les 16h07 à Paris. Une économie de guerre en Russie. Moscou publie son projet de budget pour l'an prochain avec des dépenses militaires prévues en hausse de 30% alors qu'elles avaient déjà explosé de 70% cette année. En Géorgie, le combat très inégal des habitants d'un village contre une société minière qui exploite un gisement de mangazène et provoque de gros dégâts sur leur maison. Des habitants sont en grève de la faim depuis un mois. Ils accusent d'ailleurs le gouvernement de protéger l'investisseur. Ici Régis Janté.
Depuis 2019, les habitants de Choukrouti et d'une douzaine d'autres villages des piémonts du Caucase se plaignent des dégâts causés à leur maison par l'exploitation des mines de manganèse alentour. Ils multiplient les piquets de grève et autres démarches auprès de la société Georgian Manganèse et des autorités publiques. En vain. D'où la décision début septembre de certains de venir camper devant le Parlement de Tbilissi. Et Terry, la quarantaine, nous montre des photos de sa maison sur son téléphone.
Vous voyez, ma maison est éventrée depuis la cheminée jusqu'en bas. Regardez toutes ces fissures. Et là, regardez la tapisserie qui se déchire.
Désespérée, une poignée d'hommes a entamé une grève de la faim il y a un mois. Ils se sont aussi cousus partiellement la bouche, nous les retrouvons, allongés sur de petits matelas, une couverture sur les jambes, comme Bekane Paridze, qui vit d'agriculture vivrière à Choukrouti.
Ça fait 7 mois que je ne peux plus vivre dans ma maison. On fait une grève avec des moyens extrêmes de protestation. On n'avale que de l'eau. On veut montrer à tout le pays que nous avons raison. C'est pour ça qu'on lutte. On n'a pas d'autre intérêt.
Selon Beka, seuls 5% des personnes affectées par les activités de la société ont reçu une compensation, ce que nie le producteur de ce métal grisâtre employé dans l'industrie et l'agriculture. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
137 sélections, 44 buts et presque autant de coupes de cheveux. Antoine Griezmann a annoncé tout à l'heure la fin de sa carrière internationale sous le maillot des Bleus.
C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble.
Antoine Griezmann, dans une vidéo publiée sur Twitter ce matin, et l'un de ses coéquipiers dont il parle, Kylian Mbappé, a salué « un joueur d'exception, je comprends et je respecte ta décision », a-t-il dit. Autre commentaire, « merci pour tout mon grisou », c'est Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui parlait. 16h10 à Paris, c'est la fin de ce journal et dans un instant, sur RFI autour de la question.